Good Morning Business, le grand débat.
Il est 8h40 et nous sommes avec François-Mickey Marty, président de Via Voice, et Thibault Langsat, PDG de Lumines. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On a beaucoup de sujets sur le feu, par exemple la fortune des Arnault. Bernard Arnault et sa famille ont donc été pendant quelques heures, quelques minutes même, 57 minutes, la famille la plus riche du monde avec 184 milliards de dollars juste devant Elon Musk. Au coude à coude. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie française ? J'ai entendu déjà des réactions politiques, des gens qui disaient « rendez l'argent, payez des impôts, partagez votre richesse ». Thibault Langsat.
Ben, quand vous m'avez donné le thème, je me suis dit, mais c'est une très bonne nouvelle. Puis j'ai regardé un peu, en disant, tiens, est-ce que la polémique va arriver ?
Elle arrive.
Vous le confirmez ce matin.
Affreux.
Moi, je rentre des États-Unis, mais c'est indieux aux États-Unis, au même titre que tous les entrepreneurs qui ont aussi bien réussi. C'est une formidable vitrine, c'est un savoir-faire, et on est en train de polémiquer sur, effectivement, une fortune qui aurait été faite sur le dos de façon indue. Bon, mais c'est avant
150
tout.
150 000 bulletins de paie, LVMH, et puis c'est 1 milliard d'euros d'impôts au fisc. Hein.
Mais c'est. Alors d'abord, c'est une valorisation boursière, mais c'est surtout une incroyable aventure entrepreneuriale.
Ah oui.
Voilà un entrepreneur qui a repris des activités et qui en fait un fleuron mondial dans l'univers du luxe.
Première entreprise européenne en capitalisation boursière aussi, hein, 350.
Première capitalisation, ouais. Donc pour moi c'est absolument fantastique, c'est un modèle. Je pense qu'il devrait être illustré dans les cours et dans les programmes d'économie, de sciences économiques et sociales. Et les entrepreneurs sont salués aux États-Unis, ne le sont pas en France. Je vais prendre un autre entrepreneur dont on a très peu parlé, mais qui est une réussite incroyable, qui était Pierre Bellon. Pierre Bellon a construit Sodexo. Sodexo, première entreprise dans l'univers des services, c'est un dieu aux États-Unis. Je suis même pas certain qu'il ait le droit à trois lignes dans un manuel de sciences économiques et sociales.
François-Mickey Marty, vous qui sondez les Français et l'opinion, pourquoi on n'arrive pas à célébrer nos entrepreneurs ? On n'arrive pas à en faire des dieux comme aux États-Unis ?
Oui, alors il y a des. Alors c'est pas nouveau, hein, ça fait longtemps.
Ah non,
que...
ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
Il y a quand même des progrès qui ont été réalisés, je crois. Enfin, rappelons-nous quand Emmanuel Macron, qui n'était encore que, si l'on peut dire, ministre de l'économie en 2015, il était à Las Vegas, c'était déjà aux États-Unis. Il disait à l'époque, il faudrait que les Français aient envie de devenir milliardaires. Ça avait suscité une sorte de tollé en disant, mais pourquoi devenir milliardaire, etc., etc.
Et quand nous, on veut bien devenir milliardaire.
Oui, ben voilà, on peut l'imaginer. Voilà. Et quand vous faites un sondage, précisément, parce que vous parlez des sondages, vous dites aux Français aujourd'hui, est-ce que vous auriez envie de gagner beaucoup d'argent ? C'est la réussite de votre vie, etc. 20% disent oui. Alors, on veut tous un peu plus d'argent, mais l'idée de gagner beaucoup d'argent, ouais, et donc de se distinguer du plus grand nombre par rapport à ça, eh ben, c'est quelque chose qui est considéré comme devant être maquillé et caché, etc., etc. Alors, il y a plein de raisons. On évoque souvent l'héritage judéo-chrétien, bon, qui est une grande généralité. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup, au fond, l'idée selon laquelle l'argent est quelque chose qui est un peu indu. C'est-à-dire, ce que vous disiez, Thibault Langsat, tout à l'heure, est très juste. C'est-à-dire, au nom de quoi gagne-t-il tout cela ? Ouais. Donc, c'est comme s'il devait.
Après, ça, c'est pas complètement illégitime. L'idée est-ce que, c'est souvent Nicolas Dose qui nous dit ça, est-ce que, quand j'ai 3, 4 millions, est-ce que je suis plus heureux avec 6 ou 7 ? On vous pose la question d'ailleurs, Thibault Langsat.
Vous êtes plus heureux avec 4 ou avec 7 ?
Non, mais, on va mettre le débat. Là, on parle d'une valorisation boursière.
Oui,
donc, ce n'est pas 185 milliards sur son compte bancaire. C'est bien évidemment des fluctuations. Je pense qu'on va dire qu'il n'y a pas de sujet sur la fortune personnelle de Bernard Arnault, mais on parle de valorisation. Il faut juste voir.
C'est quand même sa fortune personnelle. C'est sa fortune personnelle mesurée en termes de valorisation. Ce n'est pas la valeur de sa boîte.
Oui, mais encore faut-il que ces entreprises soient vendues à ce prix-là.
Bien sûr.
Bon, et je pense que si Bernard Arnault décide de dire je vends,
non, ça
la valorisation
moins,
ne sera
pense.
Plus du
non,
tout
ça vaudra
même.
Beaucoup moins.
Elle se chiffrera quand même en quelques milliards, mais c'est ça que ça veut dire. Et par conséquent, il faut saluer l'entrepreneur, l'homme, et la réussite et le parcours qui a été établi.
Vous voulez montrer le livre de François-Mickey Marty
sort justement un nouveau bouquin qui s'appelle Les nouvelles fractures de l'humanité. C'est presque une sorte de Harari tome 3. Hein.
Et c'est, si vous voulez le dire comme ça.
On vous le souhaite en termes de. Non, mais parce que vous posez ces questions-là sur les nouveaux humains, augmentés peut-être avec. Grâce à Elon Musk qui va nous mettre des puces dans le cerveau, des concurrences entre humains et post-humains, sur fond justement de batailles de milliards aussi, tout ça.
Oui, hein. Exactement. C'est-à-dire que on attend. Alors en Europe, on sous-estime un petit peu ça, mais les investissements qui sont réalisés aux États-Unis pour aller vers l'humain augmenté sont absolument colossaux. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas envie. Donc l'idée est qu'en effet, nous allons aller probablement vers une concurrence pour la définition de ce qu'être humain veut dire.
C'est ça.
Alors, c'est une question anthropologique, c'est une révolution anthropologique, c'est aussi une question économique et de business. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait comme business et comme investissement dans les années qui viennent? Et puis accessoirement, ça peut, cette histoire-là, si on tire un peu les fils et en allant vite, ça peut bouleverser nos systèmes sociaux, nos systèmes politiques aussi. Si certains d'entre nous vivons jusqu'à 150 ans, quand d'autres vivent jusqu'à 80 ans, les seconds auront-ils envie de payer les retraites des premiers?
C'est peut-être Mais c'est un roman de fiction que vous avez fait ou c'est une étude sociale?
C'est de la prospective. Ouais. C'était, voilà, donc on part loin en arrière et pour essayer de se projeter loin devant.
Non, c'est à la fois passionnant et effrayant. C'est-à-dire l'idée, effectivement, qu'une partie de l'humanité va peut-être être différente de l'autre parce qu'elle aura eu les moyens de s'augmenter avec des puces. Harari disait que les humains qui choisiront leur femme ou leur mari grâce à l'intelligence artificielle seront plus heureux que les autres parce que l'IA est capable de faire de meilleurs choix que vous pour rencontrer le partenaire idéal. C'est
bien
un peu ça l'idée.
Alors il y a tout un débat aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Ouais. C'est très étrange que ce débat n'arrive pas si vite en Europe, mais il va venir aux États-Unis pour savoir précisément si en lui seul le vieillissement est une pathologie. Parce que si vous considérez que le vieillissement est une pathologie, ça devrait être pris en charge par quelque organisme de sécurité sociale. On en est extrêmement loin. Bon, mais on voit bien aujourd'hui donc la conclusion. C'est, en effet, si vous avez des ressources financières un petit peu solides, vous pourrez probablement dans 10 ans ou 20 ans avoir non seulement une durée de vie supérieure à celle des autres, mais aussi des capacités de mémoire, de réflexion, etc., accentuées. Donc c'est en effet une bombe à retardement, ne serait-ce que sur le plan, de la cohérence, de la cohérence.
Est-ce qu'on a...
Je vais pondérer tout ça, parce que... Je comprends la prophétie, on peut relire Barjavel et se dire, tiens, voilà comment ça va se passer. Évidemment, les évolutions... c'est signe pour moi d'inquiétude parce que ça va générer de profondes inégalités. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire de réalité augmentée, d'intelligence augmentée, sera accessible par un prix. Et tout le monde n'aura pas accès. Alors, je vais pas aller les populations nord-sud, mais ça va cliver encore plus. Ce que je veux dire, c'est que la médecine prédictive qui fait qu'on va pouvoir mieux se soigner, pour accéder à ces prédictions, il va falloir payer. Si vous voulez un génome, une définition parfaite, eh bien, vous aurez accès moyennant. On va dire financement. Et donc, ces inégalités vont s'accroître. Et c'est ça le risque. C'est que, oui, il va y avoir une formidable avancée sur énormément de sujets, notamment autour de l'évolution de la santé, mais ce sera très inégalitaire.
Exactement.
Est-ce que dans votre livre de prospective, on a de l'énergie en janvier 2023 ?
En janvier 2023, la question, ceci dit, de l'énergie à l'horizon 2030-2040 devient extrêmement problématique. Mais en janvier 2023, c'est l'un des enjeux alors, qui préoccupe là immédiatement, notamment les dirigeants d'entreprise. On a aujourd'hui quand même entre 15 et 20% des dirigeants d'entreprise qui sont non pas inquiets, extrêmement inquiets sur ce qui peut se passer alors, en janvier, février 2023.
Ils n'écoutent pas Emmanuel Macron quand il dit qu'il ne faut pas paniquer.
C'est-à-dire que quand on écoute les experts et qu'on réalise que l'on produit entre moins 7 et moins 8% d'électricité, que traditionnellement dans ces périodes-là, on est obligé d'acheter de l'électricité en Angleterre ou en Allemagne, on est forcé de croire, les experts, qu'il y aura un moment du délestage.
Ah oui.
Bon, alors, entre les experts...
Là, vous paniquez, vous direz le président.
Je panique.
Président.
Entre les politiques qui veulent tenir un langage rassurant et les experts qui se font contredire par les politiques... J'ai plutôt tendance à croire les experts et de me dire il faut s'y préparer.
Mais même les experts, vous avez vu RTE qui a changé de pied hier soir en disant que ça va aller parce qu'ils se sont fait taper sur les doigts.
Oui, ils se sont fait un peu taper sur les doigts. Mais moi, quand les experts le disent, probablement fin janvier, début février, au moment où il y aura ces pics de consommation, j'ai peur que le délestage soit inévitable.
Comment vous faites-vous en tant que chef d'entreprise ?
Il y a deux choses. Alors nous, on est une entreprise dans l'univers des services, donc ce sont essentiellement nos ordinateurs et nos hébergeurs.
Eh oui.
Les hébergeurs, on a des groupes électrogènes, mais qui durent sur des durées assez limitées. Et après, en capacité de production, si on est prévenu suffisamment la veille, par exemple, deux heures, on est en capacité de s'organiser sur la production pour réétendre les horaires. Après, la fermeture sauvage provoque des dégâts incroyables sur les ordinateurs et sur les baies. Donc, j'ai envie de dire, si on est correctement prévenu, avec un rythme défini, on saura le gérer.
C'est à ça que servent les scénarios. C'est pour ça que les experts font des plans, c'est pas pour paniquer.
C'est pour ça que nous, on se préparait. En revanche, la coupure sauvage, où on nous annonce une heure avant qu'on va nous couper l'électricité, pour nous, c'est dramatique.
François qui est parti.
Oui, non, mais Thibault Langsade a, comme toujours, tout à fait raison. Ce qui est, au fond, extrêmement... au-delà de la pénurie en elle-même et des coupures éventuelles, ce qui est extrêmement préoccupant, c'est l'incertitude, c'est-à-dire la part d'imprévisibilité. Alors, il y a eu les incertitudes liées à des considérations, des prises de décisions politiques sur lesquelles il n'est peut-être pas nécessaire de revenir ici. Ensuite, il y a en effet le discours d'RTE qui, d'une certaine manière, évolue au gré du temps, parfois. Ensuite, il y a les mouvements sociaux qui perturbent les choses, il y a la question de la maintenance qui perturbe les choses, etc. Et donc, on a toute une série de facteurs sur cette activité qui est ô combien stratégique et qui exige ô combien de la planification et de la prévision pour tous les acteurs. Et l'idée, en effet, d'entendre que la veille, il va falloir s'adapter pour le lendemain, c'est quelque chose qui, pour, je pense, des entrepreneurs, extrêmement difficile à entendre, ne serait-ce qu'en termes de business, mais y compris en termes de philosophie générale, de pilotage du pays.
Mais qu'est-ce qui marche auprès de la population ? Parce qu'on voit un peu que cette panique, plus ou moins, ces derniers jours, ça a fait baisser la consommation globale, il y a une prise de conscience. Alors, finalement, est-ce que le discours alarmiste, ça ne sert pas ?
Alors, voilà, vous avez raison. L'alarme permet, et l'inquiétude permet de réguler les choses. Alors, il y a deux types de facteurs. D'abord, les anticipations. On a aujourd'hui 60% des Français qui ont peur d'être victimes de coupures d'électricité en janvier, février. Donc, ils disent, il vaut mieux agir dès maintenant. Et puis, pour une partie des gens aussi, des questions de vision idéologique. C'est-à-dire, il faut le faire, la sobriété a du bon, etc. etc. Ben, ce faisant, on est quand même en train collectivement de ralentir. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des prévisions de croissance pour l'année prochaine qui tournent autour de zéro. Alors, la sobriété est tout à fait louable, bien entendu, pour celles et ceux qui le souhaitent. Mais enfin, si tout le monde a peur et si tout le monde ralentit, il y a quand même quelques sommes à parier que l'activité ne va pas être florissante l'année prochaine. Au moment où on a quand même des Français pour qui la question du pouvoir d'achat et de la progression est fondamentale.
Autre sujet, les PME françaises qui n'arrivent pas à grandir. C'est ce que nous dit l'INSEE dans son rapport annuel sur les entreprises. Problème, on passe pas des PME aux entreprises de taille intermédiaire, contrairement aux Allemands, et contrairement, évidemment, à vous, Thibault Langsad, qui avait réussi avec Lumines, près de 1000 salariés, 850, je crois, aujourd'hui, à franchir ce cap. Alors, votre secret, votre mode d'emploi pour les PME qui veulent grandir.
Je vais d'abord rappeler une chose, c'est que dans les années 80, nous avions à peu près 10 000 entreprises de taille intermédiaire, ce qui est l'équivalent du Mittelstand en Allemagne, et les Italiens ont 15 000 entreprises de taille intermédiaire.
Et aujourd'hui,
vous avez 4500 entreprises de taille intermédiaire.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, vous avez plusieurs phénomènes, mais un phénomène dont on parle relativement peu et qu'il faut quand même soulever, c'est la mise en place de l'ISF. L'ISF a détruit à peu près 5000 entreprises de taille intermédiaire. Sur une pression fiscale qui s'est exercée sur les détenteurs de titres, notamment de famille.
Et la transmission.
Et donc, ce point-là n'existe plus aujourd'hui, ce qui permettra de limiter, on va dire, la destruction. Le second point, c'est que ces entreprises-là, en tout cas les PME, n'ont pas suffisamment recours à l'equity, au marché extérieur. Elles sont essentiellement financées par du concours bancaire. Alors, comme elles ne sont pas robustes comme les entreprises allemandes qui existent depuis la nuit des temps sur le Mittelstand et qu'elles s'autofinancent entre elles, ces entreprises ont du mal à grossir. Et après, je pense que le point clé, c'est la faible capacité d'exportation de ces entreprises. Quand vous regardez les entreprises allemandes, et je ne parle pas des ETI, des PME, c'est une force, on va dire, sur la balance extérieure. Donc, ces entreprises exportent et nos entreprises sont sur le terrain hexagonal essentiellement. Ces trois conjugués font qu'on a du mal à briser le plafond de verre et d'avoir davantage d'entreprises de taille.
Nicolas Dose nous disait ce matin, il y a aussi une peur du risque, c'est-à-dire qu'à la première valorisation, je vends parce que c'est déjà ça de prix. Et que je ne vais pas plus loin. François-Mickey-Martin.
Oui, peur du risque. Et puis, en effet, l'idée même de grandir ne va pas toujours de soi. Bon, je crée trois sociétés. Collaborateurs très très intéressants, mais pour qui n'ont pas nécessairement la philosophie de la croissance. À quoi bon est-il nécessaire de grandir ? Donc c'est une question qui se pose. Et puis bien sûr la question de l'internationalisation. Je pense avec laquelle la France a cette fois-ci des questions culturelles extrêmement fortes, où on a du mal au fond à aller vers l'extérieur parce que notre histoire fait qu'elle est, tout ça est compliqué et qu'on ne sait pas trop comment faire. Et puis enfin il y a des questions de financement qui sont plus compliquées, notamment en France qu'en Allemagne.
Thibault Langsad, très rapidement, vous avez eu ce vertige quand vous avez passé à l'international, quand vous avez grandi aussi, vous avez posé la question à un moment donné ?
Alors, pas vraiment, mais parce que les équipes étaient préparées. Ce que je veux dire, c'est que si on avait une équipe qui n'était pas suffisamment aguerrée à l'international, pas idiot, mais à l'aise en anglais, à l'aise dans les pays dans lesquels nous sommes, je pense que ça aurait été plus compliqué. Mais j'avais une équipe qui était plutôt aguerrie. On a remporté un gros contrat aux États-Unis.
Avec le gouvernement américain.
Une formidable opportunité pour se développer. Voilà, maintenant, on est sur un marché qui était en faible croissance sur le marché européen. Notre capacité de croissance, nous devions aller la chercher à l'étranger.
Merci beaucoup Thibault Langsad et François-Mickey Marty d'être venus.